Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Moi, je me posais la question, comment est-ce que je pouvais allier ce que j'aime avec ce qui a un sens, ce qui a un intérêt par rapport à mes valeurs, tu vois. Donc moi, mes valeurs, c'est très simple. Je suis très axé sur la communauté, très axé sur la religion, très axé sur vraiment qu'est-ce qui peut être un khair. Et que même si demain je pars, eh ben, je suis satisfait d'avoir fait ça, tu vois.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Tayeb.
Alaikum salam wa rahmatullah Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, alhamdoulilah. En très grande forme, surtout après le ramadan, donc alhamdoulilah. Et toi, j'espère que tout va bien.
Ouais, alhamdoulilah. C'est la première interview après ramadan, donc j'espère que tous les auditeurs ont passé un bon mois de ramadan, un bon Eid, ils ont bien profité et qu'ils sont au taquet pour cette période qui arrive là et qu'ils ont gardé exactement. Plein de bonnes habitudes.
exactement.
Tayeb, je te connais déjà, mais je vais quand même te demander de te présenter pour les auditeurs, Inch'Allah.
Barakallahu fik, en tout cas. Alors, salam alaikum à tous. Donc, je m'appelle Taïb Hassani, j'ai bientôt 28 ans. J'ai un master en marketing digital. À côté, je suis gros hacker et expert aussi en marketing et en stratégie digitale. Donc, j'ai une agence où j'accompagne des musulmans et je forme aussi en tant que coach des musulmans qui veulent développer et scaler leur business.
Voilà. Tu as dit un petit mot là, je sais ce que c'est, mais on va quand même définir. C'est growth hacker. Growth hacker.
Growth hacker, c'est un métier un peu du marketing digital 2.0, un peu plus poussé, où on va adopter un mindset et une méthodologie assez scientifique pour essayer de trouver des leviers de croissance dans tout type de business. En tout cas, voilà, donc on aura des process à suivre et qui vont nous permettre de trouver des points de croissance que peu de personnes trouvent en général. Voilà.
Bien.
Dans des schémas plus classiques.
D'accord. Bah, écoute, je pense que c'est clair. Tu as dit que ton agence, elle avait pour objectif d'accompagner les musulmans. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et pourquoi tu vises les musulmans en particulier. Avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton contexte, d'où est-ce que tu viens, où tu as grandi?
Oui, bien sûr. Alors moi, c'est simple, je suis né à Paris, donc dans le 20e arrondissement à Porte de Bagnolet. J'ai grandi là-bas, donc j'ai fait toutes mes classes scolaires là-bas. Ensuite, j'ai eu, on va dire, un cursus assez classique, mais d'un élève assez moyen. Donc à chaque fois, je titillais la moyenne. On va dire j'avais en moyenne entre 9 et 12, donc ni un mauvais ni un bon élève. J'étais un peu perturbateur aussi, donc je suis assez connu pour ça par mes professeurs. Et donc, en fait, une fois arrivé au lycée, tout simplement, j'ai voulu suivre mon grand frère qui, lui, avait fait un bac S et qui est devenu ingénieur par la suite. Donc, je n'ai pas réussi mon bac scientifique. J'ai fait ce qu'on appelle un DAEU, donc c'est une équivalence au bac scientifique, et je l'ai réussi. Et par la suite, j'ai fait des études supérieures, j'ai jamais trouvé ma voie, donc j'ai beaucoup testé, j'ai fait des études en comptabilité, dans l'économie, vraiment dans plein de branches, ça ne m'a pas forcément réussi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré justement un frère qui justement m'a orienté vers le marketing. Je ne connaissais pas du tout le marketing, qui m'a dit de faire des études là-dessus. Donc, j'ai commencé avec du management pour m'orienter par la suite dans des études de marketing à partir de Bac+3 jusqu'à justement mon master en marketing digital. Donc, voilà un peu d'où je viens. Et tout ça, c'est fait à Paris. Aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France et bientôt, d'ailleurs, j'entame une expatriation à l'étranger, Inch'Allah. Voilà.
Ok, on en reparlera plus tard, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Pour ceux qui sont curieux, ils le sauront à la fin. Tu as parlé un peu de la difficulté scolaire. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous étaient des élèves moyens. Moi, j'étais un élève moyen. Je pense que je me considère comme un élève moyen.
Mmh.
Mais maintenant, on voit que tu es très motivé par ce que tu fais, alors qu'avant, tu ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui fait qu'avant, tu ne savais pas trop quoi faire et tu as découvert un peu ta vocation plus tard?
En fait, c'est assez simple. C'est que à l'école, moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas forcément l'autorité. Voilà, je n'aimais pas forcément l'autorité. Donc, on m'obligeait à apprendre certaines choses dont j'avais absolument pas envie. Et je n'avais pas la sensation que ce que j'apprenais était quelque chose qui m'animait. Voilà, j'en comprenais pas l'intérêt et je n'avais pas forcément envie de faire comme monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, je ne voyais pas de sens, en tout cas, dans l'apprentissage scolaire et dans le cursus classique. Donc, ce qui s'est passé, voilà, ça m'a pas mal pris la tête. Et donc, j'étais un peu le bouc émissaire parce que je faisais un peu n'importe quoi en classe, voilà, tout simplement. Et en fait, donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que je suis arrivé à un point, à la fin du bac, je suis arrivé à un point où je ne trouvais pas forcément ma voie. Donc, j'ai directement voulu rentrer dans le monde du travail et j'ai arrêté mes études, tout simplement. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver un travail assez classique, hein, donc tout ce qui va être dans les tout ce qui est Uber, tout ce qui va être ménage, dans le ménage, etc., quand on travaille dans les tacos, donc des emplois, on va dire, pour nourrir et pour trouver justement un peu de quoi vivre, alimentaire, exactement. Donc voilà, voilà, on va dire mon parcours scolaire. Après, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que j'ai trouvé et éprouvé énormément de difficultés quand je suis rentré dans le monde du travail, que ce soit personnel ou professionnel. Et donc, par la suite, j'ai dû justement trouver un moyen de m'en sortir. Comment est-ce que je peux... Parce que j'ai senti beaucoup d'humiliation, beaucoup de difficultés dans mon travail, dans envers ma personne et aussi envers mon être. Donc,
pas des humiliations.
Des humiliations, c'est-à-dire cette autorité qu'on retrouve encore, et c'est une autorité qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en France, qui est assez mal placée en tant que patron, en tant que responsable. On ouais. veut vraiment montrer qu'on est au-dessus et pas forcément accompagné en tant que leader, tu vois. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je déteste et voilà, je suis quelqu'un qui a énormément de répondants par rapport à ça et qui ne me laisse pas faire. Donc, c'était une difficulté. Faut savoir que chaque travail dans lequel j'étais, je me suis fait virer. Voilà, simplement parce que voilà, c'est aussi clair que ça. Je ne suis jamais resté plus de 6 mois, je crois, dans un travail parce que voilà, malheureusement, j'étais... J'étais vraiment contre les personnes qui faisaient du mal, donc soit envers ma personne ou envers des collègues, justement. Et donc, je me suis retrouvé dos au mur, en sachant que faire, avec énormément de difficultés financières. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, Taïeb...
Tu vivais seul ou tu étais toujours chez ta famille?
Je vivais chez mes parents. Il faut savoir que aussi, c'était une période où c'était très difficile dans ma famille, donc j'étais un peu la personne qui essaie d'aider un peu tout le monde. Donc, tout ce que je gagnais, par exemple, financièrement, je le redonnais donc, pour aider ma famille. Ça, c'est la première chose. Et seconde chose, c'est que j'étais aussi une personne qui était très présente physiquement pour aider les personnes aussi. Voilà. Donc, quand des gens avaient des difficultés, etc.
Ton entourage, tu veux dire ?
Dans mon entourage, exactement. Ouais. Donc, ça m'a un peu valu des reproches de la part de certaines personnes, parce que voilà, donc d'autres qui veulent un peu tirer la couverture, oui, mais tu l'aides, mais tu m'aides pas moi, etc. Donc c'était un peu difficile émotionnellement à suivre tout ça, mais voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Taïb, voilà, là t'es dans une période, et il faut savoir que j'avais perdu entre temps ma mère, à l'âge de 20 ans. Et donc, je me suis dit, Taïb, il faut clairement que tu t'en sortes et que tu arrêtes de dépendre de certaines personnes. T'arrêtes de dépendre. Et quelle était la solution? C'était l'entrepreneuriat. Donc là, tu es ton propre patron. Et surtout, à ce moment-là, j'ai voulu, de par mon expérience, essayer de trouver un sens dans ce que j'allais proposer dans mon travail, donc en étant une valeur ajoutée, justement pour les musulmans. Pour les musulmans, pour moi-même, etc. Et c'est en ce sens, justement, que je suis entré dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà.
Ouais. Mais avant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, tu disais que tu travaillais. Tu as aussi dit que tu as un master. Donc, tu travaillais, tu faisais ton master tes études en parallèle ou tu as repris les études?
Ouais, en fait, c'est simple, c'est que voilà, au début, je travaillais, donc
Ouais.
j'avais arrêté les études.
Ouais.
Ensuite, j'ai repris les études peut-être un an ou deux après les avoir arrêtées, donc je les ai
Ouais.
repris. Donc ça, alhamdoulilah, il y a eu pas mal d'éléments moteurs à ce niveau-là. Et donc, je faisais à la fois mes études et à la fois je travaillais en tant que salarié. Donc, des fois, soit en tant qu'intérimaire.
Qu'est-ce qui était le déclic pour reprendre les études?
Le déclic, c'est simple, ça a été pas mal d'épreuves. D'épreuves que j'ai vécues, que ce soit professionnelles ou personnelles. Personnelles, donc de par la disparition de ma mère, de par les humiliations que je t'avais dit donc, au travail, les difficultés justement à tenir ma place en tant que salarié.
Ouais.
Je me sentais pas du tout à ma place. Et le déclic aussi, ça a été l'entourage. L'entourage, pas forcément l'entourage familial, mais l'entourage, on va dire, de frères plus orientés à la spiritualité, qui m'ont clairement accompagné et qui m'ont en fait, ils ont créé une sorte de renouveau chez moi et qui
Ouais.
m'ont créé ce déclic pour me relancer dans le monde des études et aussi du travail par la suite.
D'accord. Plutôt aussi, tu disais aussi que tu voulais devenir entrepreneur. C'était aussi en parallèle de tes études, donc, ou c'était après tes études?
C'est ça. Alors, il faut savoir que je connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. C'était pas du tout un monde auquel je pensais jusqu'à à peu près mon bac plus 3. Voilà. Donc, moi, je pensais qu'à être salarié. Salarié, c'est le cursus classique qu'on connaît tous et que, justement, en famille, on nous invite tous à suivre. Hein. C'est d'avoir un
Ouais.
bac plus 5 et derrière de faire un bon travail en tant que salarié. Et puis voilà.
D'avoir un CDI.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, que j'avais en fait connu des frères qui étaient entrepreneurs et qui m'ont clairement montré que c'était un autre cursus qui était possible et qui était faisable. Et surtout, j'ai vu les avantages chez ces frères d'entreprendre. Et donc, moi, c'était quelque chose de totalement nouveau et ça m'a paru comme un déclic, tout simplement. Donc, voilà. C'est ce qui m'a, en tout cas, encouragé à entreprendre et à me dire, OK, Taïeb, il y a d'autres voies possibles et tu peux clairement atteindre ce que tu souhaites en entreprenant et en prenant cette voie. Voilà.
D'accord. Quand tu disais que tu travaillais dans des snacks, tout ça, tu voyais pas ça comme l'entrepreneuriat? Ça te donnait pas envie aussi, ou ça n'a rien à voir pour toi?
Non, c'est simple. Pour moi, personnellement, il n'y a aucun sens. Moi, c'est simple, c'est que y a une étape de ma vie où je voulais juste travailler en tant que salarié pour, on va dire, subvenir à mes besoins classiques et
Ouais.
demain subvenir à mes besoins le jour où j'ai une famille, en fait, tout simplement.
Ouais.
Honnêtement, moi, j'ai compris très, très vite, justement, de par pas mal d'épreuves. Qu'en fait, je pourrais, premièrement, avec un salaire classique, ne pas pouvoir subvenir aux besoins donc, de ma famille. Et derrière, ne pas pouvoir m'épanouir au travail. Quand, personnellement, je faisais de la plonge ou je faisais Uber, je dépendais toujours des personnes, premièrement. Et surtout, derrière, j'avais aucun plaisir. Voilà, c'était juste, je devais y aller parce que tu devais ramener de l'argent. Voilà, c'était la seule chose. Aucun sens, aucun plaisir. Et derrière, bah, c'est aussi de par cette expérience que j'ai eu envie donc de trouver quelque chose d'autre et avec un réel sens. Et donc, où j'ai voulu m'orienter vers quelque chose qui aiderait en fait la communauté et moi-même aussi.
Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai jamais arrêté les études, mais j'ai eu des difficultés, j'ai eu des baisses de motivation. J'ai même refait parfois des années en licence parce que je ne savais pas exactement quoi faire et que je ne travaillais pas suffisamment. Et le fait de travailler l'été, pendant la semaine, parce que je voulais me faire un peu d'argent, ça m'a montré un peu la réalité du terrain, d'apprendre la
Exactement,
réalité. Et
exactement.
je me suis dit, non, jamais je pourrais, il faut jamais que je termine comme ça, sinon ce n'est pas du tout mon monde, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas m'épanouir, je ne vais jamais être heureux comme ça. Et Ce n'est pas du tout un environnement dans lequel je vais me retrouver. Moi, par exemple, j'avais comme exemple ce que j'avais fait. J'avais travaillé pendant un mois dans les trains, de nettoyage de train. Je l'ai fait un
D'accord.
mois, après je me suis fait virer. Enfin, ils ne m'ont pas renouvelé. Je ne suis pas fait virer, mais ils ne m'ont pas renouvelé.
Et t'as pris aucun plaisir.
Et j'ai pris zéro plaisir. Zéro plaisir, ni au travail, ni avec la communication avec les gens. J'étais tiré vers le bas. Et une deuxième chose que j'avais fait, enfin, j'avais fait plein de petits boulots. Mais un des petits trucs que j'avais fait, c'était marrant. À l'époque, à côté de où j'habitais, il y avait une entreprise qui faisait des formations CACES. Je ne sais pas si tu connais. Les CACES, c'est pour
Cassette, ouais, je
être
connais, ouais.
pour la manutention, les petites machines là, qui portent les palettes.
Ouais.
Ils disaient que c'était bien, enfin, c'était assez pas très fatigant et mieux payé que la manutention classique quand tu portes à la main. Et du coup, j'avais fait la formation. C'était en quelques jours. Je l'avais payé, je crois que c'était 200 ou 300 euros. Et à la fin, ben, ça m'avait tellement dégoûté. Je l'avais eu facilement, hein, mais ça m'avait tellement dégoûté. Je n'ai même pas travaillé dessus. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis juste dit, jamais je ferai ça. Il ne faut jamais que je fasse ça.
Ah,
Il
mais
faut que
c'est
je me
ça.
débrouille. Il faut que je débrouille. L'année prochaine, je reprends en septembre, là. Il faut que je
Ouais.
trouve un moyen. Voilà, je vais me mettre à fond dessus.
Et ça a été un élément moteur,
Ça a
justement.
été un élément très, très moteur. Si je n'avais pas fait ces
Clairement.
petits boulots qui entre guillemets, enfin, pas me dégoûter, je vais pas dire que c'était pas non plus des. Je vais pas dénigrer ces jobs-là, mais en tout cas, moi, je me voyais pas, je me projetais pas du tout dessus. Je me disais que si je faisais ça. En fait, ça m'a permis de réaliser la chance que j'avais de faire des études, en fait, et de dire qu'il fallait pas que
Exactement.
je loupe ça, quoi. J'ai encore le temps et il fallait que je fasse quelque chose de cette opportunité que j'ai.
Exactement, exactement. Bah, tu vois ce que tu dis, c'est la même chose hein, quand tu fais de la plonge et que moi personnellement, je rentrais à minuit chez moi, mais le dos cassé, alors que j'étais jeune, hein, le dos cassé, le visage, tu avais l'impression que je rentrais des mines en Chine où je me trouvais. Franchement, moi, je regardais mon visage dans un miroir le soir, je flippais, tu vois. Je flippais, je me suis dit, waouh, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire toute ta vie? Et franchement, c'est ça, en fait. C'est quand tu te vois face au miroir et que tu vois à quel point tu as galéré la journée sur un truc que où tu prends aucun plaisir, à la fin, tu te dis, mais attends, 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 mais je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Donc, clairement, il faut que je trouve un moyen, quel que soit le moyen, il faut que je me démène, en fait, tu vois. Et c'est ça, franchement, c'était un moteur, mais incroyable, tu vois.
Ouais. Et du coup, tu t'es orienté vers le marketing. Pourquoi le marketing?
Alors, le
Marketing
marketing,
digital, plus même.
ouais, marketing digital, justement, c'est simple. Alors, c'est une anecdote incroyable. J'étais donc avec des frères et j'ai rencontré justement un savant. Un savant. Et ce savant, je suis allé le voir et je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire. Voilà. Je lui ai dit, il me posait la question, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais quoi comme étude et tout? Donc, je lui ai dit, moi, je fais telle étude actuellement voilà, je pense soit à faire professeur, soit être dans le management, tu vois, quelque chose comme ça. Vraiment. Et ce qui se passe, c'est qu'il me regarde, il me dit, tu ne veux pas faire du big data? Du big data, oui. Et moi, donc, je m'étais déjà renseigné quelques semaines avant sur le big data. Personnellement, j'aimais bien le concept, mais je savais que je n'allais pas aimer travailler dedans. Et après, il a vu dans mon visage que je n'étais pas trop chaud. Il m'a dit, regarde le marketing digital. Je pense que tu vas aimer. Comme ça. Il m'a clairement dit comme ça.
Ouais.
Moi, je ne connaissais pas du tout ce que ça voulait dire, marketing digital. Je ne savais
Ni
pas du tout ce
marketing,
que ça
ni
voulait dire.
digital.
Ni marketing, ni digital. Il fallait que j'aille. Donc, je me rappelle que les 5 premières minutes après l'avoir rencontré, je suis allé sur Internet, j'ai mis définition marketing digital, tu vois. Donc, c'était marrant.
Wikipédia.
Regardez. Ouais, clairement. Et ce qui se passe, c'est que je regarde et je me dis, OK, ça m'a l'air intéressant. Et les jours qui ont suivi, j'ai regardé des définitions, des formations, des gens qui font des vidéos là-dessus, sur qu'est-ce que c'est, etc. En tout cas, tout ce qui est introductif à ça. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est clairement ce qu'il me faut, tu vois. J'ai senti en fait que j'étais clairement dans mon élément, dans mon élément. C'était vraiment quelque chose
Qui
qui.
donnerait la ligne.
Ouais, clairement, exactement. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt? Je te jure, c'est vrai. Je me suis dit, mais waouh, on m'aurait fait gagner 10 ans de ma vie, par exemple. Mais c'était clairement quelque chose qui était. C'est comme si, voilà, il a touché pile là où il fallait. Voilà. Alors qu'il ne me connaissait pas vraiment. Il m'a juste sorti un métier comme ça. C'est une anecdote
Tu l'as revu juste
incroyable.
avant ou plus jamais?
Ouais, je l'ai revu, je l'ai remercié. Et franchement, c'est devenu limite comment dire, un repère. Ça veut dire que moi, personnellement, voilà, je le vois, je le remercie, etc. Et je sais que derrière, il a vraiment des conseils qui sont vraiment de bons parents. Tu vois, comme ton père, ta mère qui va te dire, voilà, fais ça, c'est pour ton bien. Voilà, c'est clairement ça en fait. Donc voilà comment est-ce que je me suis retrouvé à m'orienter dans le marketing digital. Voilà.
D'accord. Mais tu avais toujours l'idée de faire de l'entrepreneuriat, pas travailler pour quelqu'un.
Exactement. Exactement. J'avais cette idée-là qui est arrivée presque au même moment où j'ai eu ce déclic pour le marketing digital. C'est à ce moment-là justement où j'ai fait la rencontre de deux frères qui m'ont voilà, qui m'ont dit bah, pourquoi pas faire une alternance chez nous dans le marketing digital. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce frère qui m'a appris était entrepreneur et c'est là où j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et où j'ai eu une fascination pour ce monde-là parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de limites. Il y a plus de limites que toutes les limites que tu te mets en tant que salarié. Bah, tu es sur un monde sans limites dans l'entrepreneuriat et que. En fait, on t'apprend à être responsable, on t'apprend à être créatif, on t'apprend justement à te débrouiller toi-même et à ne plus être en fait attentiste et à ne plus agir comme un robot, ce que j'ai connu dans le monde du salariat. Et tu vois, quand je te disais dans le monde du salariat, je n'aimais pas tout ce qui était autorité, tu dois faire ça, tout est carré, etc. Bah, dans le monde de l'entrepreneuriat, j'apprends justement à être carré, mais avec cette liberté et cette créativité, tu vois. Donc, c'était. C'est franchement, voilà, ça a été un épanouissement quand j'ai découvert ça avec ces deux frères, justement, qui m'ont fait découvrir ce monde-là.
Ok. Du coup, l'entrepreneuriat, marketing digital, comment tu as choisi ton domaine, ce que tu voulais faire exactement, quel projet tu voulais porter?
Alors, c'est simple, c'est que moi, je me posais la question, comment est-ce que je pouvais allier ce que j'aime avec ce qui a un sens, ce qui a un intérêt? Par rapport à mes valeurs, tu vois. Donc moi, mes valeurs, c'est très simple. Je suis très axé sur la communauté, très axé sur la religion, très axé sur vraiment qu'est-ce qui peut être un khair, et que même si demain je pars, eh ben je suis satisfait d'avoir fait ça, tu vois. Eh ben je me suis dit ok, le marketing digital aujourd'hui c'est un monde en expansion, c'est un secteur qui grandit et la communauté aujourd'hui clairement on peut se le dire. On a pas mal de retard sur des acteurs communs dans tout ce qui est l'Occident, etc. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais être une valeur ajoutée justement pour cette communauté-là? Et donc, voilà, j'ai trouvé un sens, c'est que j'aidais justement les musulmans, donc des acteurs musulmans, ça peut être des entrepreneurs, des entreprises, donc soit à développer leur business ou soit à scaler. Scaler, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un business qui est assez développé, mais on va encore chercher cette croissance qui leur permet d'agrandir en fait ce développement, cette structure, etc. Donc c'est là où en fait j'ai trouvé un sens et un intérêt à allier en fait le marketing digital et justement l'entrepreneuriat, mais aussi avec la communauté musulmane. Voilà.
D'accord.
Et si je peux rajouter quelque chose, c'est parce que aussi, tout ça c'est venu d'un point, c'est venu déjà de mon expérience personnelle par rapport à ce que je te dis, cette humiliation. J'en ai marre en fait que moi, les musulmans, on soit vraiment obligés de courber le dos, l'échine, tu vois, au travail, etc., de sentir humilié, qu'il n'y ait pas cette entraide, ça, moi, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur personnellement et qui m'énerve intérieurement, vraiment qui m'énerve et il y a une colère, tu vois. Parce que moi, quand je regardais un peu. Quand je regarde un peu l'histoire avec les compagnons, l'époque des compagnons, etc. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est cette entraide, tu vois, c'est cette unité qu'il y a au sein de la communauté, et c'est cette excellence qu'ils ont réussi à atteindre de par justement cette somme, tu vois. C'est que 1 plus 1 plus 1 égale, en fait, ils ont créé en fait ce corps commun en étant chacun en fait une utilité pour l'autre, tu vois, et tous étaient unis. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas trop ce que je vois, même si je vois qu'il y a effectivement des actions qui se mettent en place petit à petit. Mais aujourd'hui, on est clairement divisé. Chacun pense à soi. On est encore avec une mentalité. Pour moi, on n'a pas une mentalité de musulman. Un musulman, pour moi, c'est quelqu'un qui doit viser l'excellence. C'est quelqu'un qui, dans son combat, et doit atteindre le meilleur comportement, mais doit aussi atteindre l'excellence là où il est. Donc, dans son travail, il doit se rendre indispensable, il doit avoir la meilleure facette et la meilleure version, tu vois. Et donc, de par tout ça, moi, ce n'est pas quelque chose que je voyais. Et donc, je me suis dit, OK, clairement, ce que je souhaite, c'est changer ces choses-là, tu vois. Et donc, je me suis dit, le musulman, moi, aujourd'hui, je veux accompagner les musulmans, mais les musulmans que je veux accompagner, je veux clairement qu'on soit comme des frères et sœurs, c'est un peu utopique, tout ça, mais comme des frères et sœurs, mais qu'on avance, on grandisse ensemble et qu'on vise l'excellence, tu vois. Parce qu'il y a un truc, moi, qui m'a marqué aussi, c'est que quand j'ai, à un moment, j'avais vu une phrase avant, il y a quelques siècles, de cela, on disait faire du travail d'arabe. Je crois que c'était à l'époque andalou. Je suis pas très sûr. Faire du travail d'arabe, quand quelqu'un disait tu fais du travail d'arabe, c'est tu fais du travail, tu fais du très beau travail, du travail excellent. Tu vois? Aujourd'hui, subhanallah, ça a pris, tu vois, ça fait un virage à 180 degrés. Tu fais du travail d'arabe, c'est tu as fait du travail, excuse-moi, éclaté, qui est vraiment bidon, etc., qui est exécrable. Et franchement, avec un minimum de fierté, tu te dis, attends, subhanallah, nous, on est la communauté des musulmans qui, normalement, doit être la meilleure des communautés aujourd'hui. Et on nous laisse, tu vois, on se fait marcher comme ça et on accepte ça sans problème, tu vois. Moi, c'est un truc, franchement, qui me fait mal. Et je me dis, non, aujourd'hui, coûte que coûte, il faut changer ça. Voilà.
D'accord. Ton projet, je trouve qu'il est intéressant parce que autant, tu vois, tu aurais pu faire un projet tourné vers l'indépendance, juste l'indépendance, être épanoui, mais dans un projet qui ne vise pas spécialement les musulmans. Tu aurais pu accompagner tout le monde, mais tu as choisi spécifiquement de vouloir aider la communauté musulmane pour pouvoir faire évoluer l'islam en France en particulier. Donc ça, on sent que c'est quelque chose de central dans ton projet. Sans ça, en fait, ça n'a pas la même valeur. La première fois que j'ai parlé avec toi, tu m'as parlé de ta mission, ta vision. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, nous l'énoncer? Je ne sais pas si tu la connais par cœur, si je te prends au
Ouais, la
dépourvu.
mission. Ouais, non, c'est simple. En fait, la mission que j'ai, en tout cas, de par la création de ce business, c'est en fait de retrouver un âge d'or islamique en prenant l'axe du commerce, tu vois. C'est-à-dire que on peut retrouver un âge d'or islamique de par tout ce qui va être spiritualité, religion, etc. Mais il y a aussi l'âge d'or islamique qu'on peut prendre par d'autres voies, et ça peut être la voie du commerce, tu vois. De par la voie du commerce, donc du business, etc. Mon but, c'est simple, c'est de faire atteindre un niveau. Seulement, voilà, je prétends pas que je peux faire ça moi-même, hein, mais en tout cas, si on peut créer ce mouvement, c'est d'atteindre cet âge d'or-là, que tous les musulmans puissent atteindre cette excellence-là, justement par la voie justement de l'entrepreneuriat ou du business, etc. en général.
D'accord, très bien. Bah, c'est une mission très noble, Tayeb. Je te félicite pour, en tout cas pour Tania. Du coup, tu travailles sur ça depuis combien de temps? Depuis peut-être un an, ça fait pas très longtemps, non? Il me semble.
Ouais, en fait, c'est simple, c'est que j'ai lancé mon agence en février 2021. Alhamdoulilah, ça se passe très, très bien. Donc, faut savoir que j'ai fait du coaching officieusement durant l'année 2021. Donc, j'ai décidé de le faire officiellement depuis début 2022. Voilà, officiellement. Donc là, le but, voilà, c'est simple, c'est de développer et qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs musulmans qui rentre dans le game pour pouvoir atteindre justement le but souhaité.
Très bien. Bon, c'est encore un peu tôt, mais est-ce que tu vois déjà des progrès, tu as déjà des retours par rapport aux personnes que tu accompagnes?
Ouais, clairement, clairement, là, j'ai déjà quelques personnes que je suis déjà en train de coacher. Alhamdoulilah, il y a déjà des retours, donc pour en parler donc d'une personne qui était à la base à 1000 euros par mois, tu vois, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle avait déjà 1000 euros par mois. Aujourd'hui, elle a 8000 euros par mois, tu vois. Et alhamdoulilah, donc ça se passe très très bien. Il y a aussi d'autres retours. Là, c'est pas aussi que financier. Donc même si en général les gens attendent surtout des résultats financiers, et alhamdoulilah, eux tous ont des résultats financiers, mais tu as aussi d'autres résultats où des personnes, par exemple, se sentent plus libres de s'exprimer dans leur religion, tu vois, etc. Donc ça, c'est... D'un point de vue général, les résultats, ils sont vraiment atteints en tout cas pour les personnes que j'accompagne, et d'autres sont en cours, justement, parce qu'on débute pour certains.
D'accord. Et l'accompagnement, comment est-ce qu'il se déroule? Tu peux accompagner tout le monde? Est-ce que tu filtres? Et comment l'accompagnement se déroule?
Ouais, alors c'est simple. Moi, je décide pas de prendre tout le monde dans l'accompagnement, tout simplement parce que le but, c'est d'avoir un accompagnement de qualité, tu vois. Donc, je décide donc de voir si la personne, elle a déjà l'état d'esprit pour vouloir se faire accompagner. Tu peux me proposer 1 million d'euros si t'as pas le bon état d'esprit, j'ai pas envie de t'accompagner parce que justement, la cause, elle est beaucoup plus haute que ma personne, tu vois. Donc, moi, en quelque sorte, c'est pas l'argent qui fait que je vais accepter cet accompagnement ou pas, tu vois. Donc déjà, effectivement, il y a une sorte de casting qui se fait, tu vois. On accepte la personne ou pas. Et derrière, cet accompagnement, c'est simple, c'est donc du coaching à ce niveau-là où il y a un process à suivre, tu vois. On essaie de mettre des bases au niveau de la structure par rapport à son projet. Tu vois. Et à partir de là, on développe justement des stratégies pour justement atteindre le résultat souhaité, l'objectif souhaité par la personne. C'est ça. Ça, c'est d'un point de vue coaching. Après, tout ce qui va être en agence, bah là, c'est plus de la délégation. Donc, ça va être à peu près pareil. On voit quels sont les objectifs, où en est la structure ou la personne. Et derrière, on met en place des stratégies pour atteindre les objectifs. Voilà.
Très bien. Et du coup, faut qu'il y ait du digital derrière, forcément.
Oui, exactement. De toute façon, c'est la base, c'est la base, c'est le cœur de métier. Donc, tout va être en rapport avec le digital. Vraiment tout. Donc, ça passera par de la publicité, ça passera par des tunnels, ça passera par des stratégies de mail, tu vois, ça passera par des stratégies de contenu et aussi d'autres choses en rapport avec le branding. Mais tout sera en rapport avec le digital. Aujourd'hui, étant donné la puissance du digital et à quel point on rentre de plus en plus dedans et on pourra de moins en moins se passer de ça, justement. C'est aujourd'hui, justement, une étape ultra importante, donc centrale de notre travail. Voilà.
Alors, tu as annoncé au tout début que tu t'expatriais. Donc, très bientôt, Inch'Allah, tu t'expatries où?
Alors, c'est une bonne question. Alors, actuellement, alors, c'est simple. Ma première expatriation, donc pour normalement, dans les prochains mois, Inch'Allah, ce sera au Maroc, mais ce sera pour un temps très très court, voilà, pour une question de quelques mois, parce qu'après, je m'expatrie, Inch'Allah, pour la Turquie. Donc pour la Turquie, j'aime beaucoup ce pays, tout comme le Maroc, et j'ai vraiment envie de le découvrir. Et par la suite, j'aimerais, donc je pense aussi pour un temps très court, ce sera Dubaï. Dubaï plus pour la partie réseau, développer son réseau, etc. Dubaï, je pense que c'est assez intéressant et pertinent. Il y a d'autres musulmans là-bas, donc ça peut être super intéressant. Voilà. Ça, c'est pour l'expatriation court terme. Voilà.
Ok, parce qu'il y a une expatriation long terme aussi.
Il y a l'expatriation pour vivre effectivement sur du long terme. Ça, effectivement, ça sera soit aujourd'hui le Maroc ou la Turquie. Donc la Turquie, ça va être un test, une vraie étape pour voir si vraiment c'est un pays sur lequel je m'y plais. Et il y aura aussi le Maroc, qui est, on va dire, une de mes terres natales parce que je suis algérien marocain. Donc voilà,
D'accord.
mes
Ok.
terres d'origine, c'est ça.
Pourquoi tu as décidé de t'expatrier et pas rester en France?
Alors c'est très simple, c'est que déjà, alhamdoulilah, grâce au digital, on nous a donné la chance de pouvoir travailler à distance. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Pourquoi? C'est simple, c'est on va dire un peu le contexte social en France. Personnellement, je déteste actuellement le contexte aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que j'avais, encore il y a quelques années en arrière, une optique et une vision. C'était, tu sais, je pense que, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Sidna Youssouf, alayhi salam, le prophète.
Entendu
Lui, il est
parler.
arrivé. Voilà, donc il est arrivé dans un pays, et justement, un pays qui était en proie à une grosse répression par rapport à la religion monothéiste, etc. Et lui, il a décidé de faire le choix de rester, donc de réformer un peu ce pays-là, tu vois. C'était la pensée que j'avais de base. Je me suis dit, non, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je veux rester ici et on fera ce qu'il faut. Aujourd'hui, ma pensée, elle a évolué. Et je suis plus en mode. je suis plus en mode hijra comme, comme prophète, hein, cette célèbre.
Ça va, ça.
Je me suis dit, on a la possibilité de partir, bah, bismillah, et pourquoi pas demain, si les choses doivent s'améliorer, doivent, tu vois, en France, eh ben, on reviendra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la question. La question ne se pose pas du tout pour la France, et tellement on est dans un contexte de peur, de problèmes, en tout cas, on a l'impression que ça va de mal en pire, tu vois. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt de rester en France. Personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, pour ma personne, je peux rester, ce n'est pas un problème. Étant donné que j'ai des objectifs, donc de fonder une famille, etc., par rapport à ma future épouse, etc., personnellement, je ne me vois pas rester en France parce qu'il faut penser aussi aux personnes qui nous entourent. Voilà.
On a que te facilite ton mariage très proche. Très bien. Bah, écoute, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions les plus importantes que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que je finisse par les petites questions. Est-ce qu'il y a un élément que j'aurais pu évoquer, que je n'ai pas évoqué?
Là, clairement, non, pas vraiment. Il n'y a rien qui me vient en tête là tout de suite. Non.
Super. Écoute, on va terminer par des petites questions. Est-ce que tu as des routines que tu suis régulièrement, au quotidien ou pas forcément au quotidien, qui t'aident à progresser?
Clairement. Donc moi, déjà, faut savoir, premièrement, c'est que je me fais accompagner. Alhamdoulilah, moi, c'est bien un truc sur lequel... je mets le doigt, c'est le fait de toujours continuer à apprendre, toujours avoir un process où on se fait accompagner. C'est-à-dire que même si moi j'accompagne des gens à côté, je me fais accompagner. C'est très important. On n'arrête jamais d'apprendre et d'évoluer. Donc moi, ce qui se passe, c'est que je fais du dhikr. Ça, c'est vraiment c'est un process et une routine qui est incroyable. Vraiment qui est incroyable et qui m'aide énormément. C'est donc du dhikr, que ce soit individuel ou collectif. Donc, ça peut être à la mosquée, etc. Donc, on se retrouve, on va faire de la lecture du Coran tous ensemble, une fois par semaine, etc. Et ça peut être du dhikr individuel aussi. Donc, voilà. Ça, c'est, je peux le faire plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Et d'autres routines, voilà. De par cet accompagnement que je fais actuellement, j'ai appris à mieux structurer justement mes journées. Donc ça, c'est une routine justement où je mets en place les actions les plus importantes, les plus difficiles en matinée pour me laisser justement du temps pour du temps perso, pour du temps par rapport à la religion et aussi du temps familial, tu vois. Donc c'est très important. Je pense que tu dois connaître il y a un hadith du prophète Al-Faslam qui disait de passer à chaque fois un tiers de son temps donc en famille, un autre tiers pour sa religion et un autre tiers de son temps dans son travail. Ça, c'est, franchement, c'est incroyable. Dans la religion, on a tout qui est expliqué. Et donc, voilà, c'est un process justement que je mets de plus en plus en place. C'était un process sur lequel j'avais un peu du mal avant parce que j'étais très, très axé travail. Mais je vois beaucoup de bienfaits depuis que j'ai mis cette routine en place. Voilà. Donc, en avant, d'abord, je mets... les choses les plus difficiles à faire au niveau travail le matin, et l'après-midi plus en soirée, c'est tout ce qui va être en rapport avec la religion, la famille, etc.
D'accord. Bah, écoute, c'est une très belle routine. C'est qu'un autre invité l'avait évoqué plus tôt. C'est assez difficile quand on travaille, je pense, quand l'entreprise, quand on a les horaires classiques, 9h, 17h, tout ça, on dépasse vite les horaires de travail en termes d'un tiers, un tiers.
Mais, ouais. Ouais, alors t'as pas tort, c'est assez difficile, surtout que moi je suis tellement animé par ce que je fais que des fois, et ça m'est déjà arrivé de faire du 6h minuit, mais vraiment dans le plus grand des calmes, mais je voyais aucune fatigue tellement j'étais animé. Mais tu vois, t'as la famille qui toque qui toque et qui t'a dit quand même il est où notre temps, et ils ont raison, ils ont leur haq, tu vois, leur droit. Et effectivement, il a fallu restructurer certaines choses. Et aujourd'hui, j'apprends et c'est ça qui est incroyable, j'apprends à déléguer avec des musulmans, tu vois. Donc, c'est une bonne chose, c'est que ce qu'on souhaite atteindre, ben, on le fait autour de nous, c'est-à-dire des musulmans qui aujourd'hui peuvent travailler avec nous, ensemble, main dans la main, et vers des objectifs communs. Voilà.
Super. Super. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires, de références, de personnes des gens qui t'ont ou des choses qui t'ont particulièrement marqué?
Ouais, bien sûr. Alors moi, il y a deux livres que je conseille. En tout cas, il y en a un qui s'appelle The One Thing qui en fait, qui explique juste comment faire focus que ce soit professionnel, d'un point de vue professionnel ou personnel.
C'est de Gary Keller,
Gary
le livre.
Keller, exactement. Gary Keller, ouais. The One Thing de Gary Keller, ça, voilà, qui t'explique comment faire focus pour justement maximiser ta productivité, maximiser justement les résultats. Faire focus sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment un livre qui, justement, est adaptable aussi dans sa vie personnelle, parce que quand tu fais focus par rapport à des priorités personnelles, ben, subhanallah, tu te rends compte qu'il y a les résultats escomptés et que tu peux atteindre à ce niveau-là. Le deuxième livre, c'est un livre justement de Cheikh Tariq Ben-Garaï. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'essentiel de la religion musulmane, d'Ibn Ashir, et qui permet en fait de résumer et de synthétiser les pôles importants en religion, donc les pôles que ce soit spirituel, de fiqh, tu vois, et de religion en général. Et alhamdoulilah, c'est vraiment un livre qui a été une vraie introduction et en tout cas un peu comme un livre de chevet qui te permet de toujours faire focus sur les points importants de ta religion.
D'accord.
Donc voilà. Voilà. Et après, d'un point de vue au niveau des personnes, eh ben, on a des classiques. Hein. Enfin, là, moi, j'aime beaucoup regarder l'histoire des compagnons. C'est vraiment, moi, ça me fait. En dehors des
Ouais.
prophètes, hein, Salem, parce qu'ils sont hors catégorie, eux. Mais l'histoire des compagnons, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. D'ailleurs, une personne qui est, je pense, un vertueux, qui s'appelle Ertuğrul. Ertuğrul, qui est
Ertuğrul.
turc. Non, qui est turc. La Turquie n'existait pas avant, mais en tout cas, c'est le père du fondateur de l'Empire ottoman, qui a une histoire incroyable, tu vois. Et c'est par là, quand je parlais de revenir à un âge d'or islamique, par le business, par le commerce, etc., bah, je tire potentiellement une phrase de lui, tu vois, où il
Ouais.
expliquait qu'on revient vers un âge d'or islamique par la voie de la religion, par la voie du commerce, etc., tu vois. Donc, c'est
Ouais.
vraiment des choses qui sont... Voilà. C'est des personnages aussi qui sont impactants aujourd'hui. Voilà.
Ertugoul, qui a un gros succès là, c'est cette série. Très belle série.
Exactement.
Dernière question, comment faire pour les auditeurs s'ils souhaitent te suivre ou s'ils ont une question à te poser?
Ouais, alors, c'est
Ou
très
s'ils souhaitent avoir
simple.
un accompagnement aussi d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai un site Muslim Digital Academy. .com justement où vous allez pouvoir voir tout ce que je propose donc en termes de formation donc de coaching si vous voulez développer votre business. Il y a aussi une section agence si vraiment vous voulez déléguer justement donc les prestations digitales pour vraiment développer votre business que ce soit en termes de chiffre d'affaires en termes de visibilité etc. Et il y a aussi vous pouvez me suivre sur les réseaux donc sur YouTube sur Instagram et sur Telegram, donc il y a aussi Facebook, mais qui est un peu moins mis en avant. Voilà.
Ok, bah écoute, très bien. Taïeb, j'ai eu un très grand plaisir à parler avec toi pendant ces 7 heures. Je trouve que ton projet, ce qui m'a le plus impacté, c'est un peu la mission du projet, ce que tu souhaites accomplir derrière et ce qui t'inspire dans ton travail. Je trouve que c'est le plus inspirant pour moi. Je pense que si on avait beaucoup de porteurs de projets comme ça qui avaient au centre de leur projet la communauté et l'islam et l'épanouissement de l'islam en France, ça aura un impact considérable pour la communauté.
Exactement, et déjà, bah, Barakallahou fik à toi en tout cas pour cette invitation, et je te remercie. À toi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais, et tu es très inspirant. Et alhamdoulilah, chacun, on va dire chacun à sa place aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a pas mal de porteurs de projets comme toi, comme moi, comme d'autres invités que tu mets en place. Et donc, alhamdoulilah, c'est en tout cas un honneur, et j'espère en tout cas pouvoir atteindre le résultat souhaité et que chacun soit satisfait de ce que j'apporte. Alhamdoulilah.
Je te facilite, Tayeb. Je te dis à très vite, Inch'Allah. Et salam alaikum.
Barakallahu fik. Salam alaikum à toi aussi. Merci.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.